à ce sujet, et ce ne sera certainement pas la dernière, parce que la prière est tellement indissociable de la vie chrétienne. Donc je ne vais pas innover ce matin, et parce que le culte est déjà bien avancé, je ne veux pas être long. Et je voudrais juste esquisser quelques pistes de réflexion, à vous de continuer ensuite cette réflexion. Mais que le Seigneur réveille en nous, à vous comme à moi, le sens et le désir de la prière. Il y a un épisode fameux dans notre Bible qui est bien connu, peut-être davantage par les enfants. Il s'agit de Daniel dans la fosse aux lions. Vous vous rappelez certainement ce récit, mais vous rappelez-vous pourquoi Daniel a été jeté dans la fosse aux lions ? Est-ce parce qu'il a profité de sa position de ministre d'État pour s'enrichir personnellement ? Est-ce qu'il a profité de sa position pour satisfaire ses passions les plus charnelles ? Est-ce qu'il a profité de sa position pour assouvir un pouvoir tout personnel ? Non plus. Daniel n'était pas un homme corrompu. Rien de tout cela. Il fut jeté dans la fosse aux lions à cause de sa vie de prière. Je vous rappelle brièvement la situation. Daniel, un jeune homme hébreu, peut-être juste un adolescent lorsqu'il fut amené en exil avec l'élite du peuple du royaume de Juda par le roi Nabucodonosor au moment de la prise de Jérusalem par les Babyloniens. Le temple sera détruit 11 ans plus tard. Et à Babylone, Daniel est formé pour devenir un serviteur d'État, un haut fonctionnaire au service des rois. Il est confronté à une culture totalement différente que la sienne, une civilisation totalitaire et idolâtre aux multiples divinités. Daniel va cependant rester fidèle à sa vocation d'hébreu. Il va devenir un incontournable à la cour des rois, à tel point qu'il devient le troisième homme le plus important de l'Empire perse. Fidèle à la loi de Dieu et fidèle dans son service auprès des rois, pourtant rois orgueilleux et capricieux, imbus de leur pouvoir, voilà qui était notre Daniel. Au moment de l'épisode de la fosse aux lions, des rois se sont succédés et Daniel n'est plus le jeune homme de ses débuts, il est âgé, dit-on, de près de 80 ans. Mais toujours le même caractère, toujours la même fidélité, toujours la même persévérance. Nous allons lire le texte, Daniel 6, versets 1 à 12. Alors, je vais essayer de me servir de cette machine. Darius trouva bon d'établir sur le royaume, donc c'est Daniel chapitre 6, 1, verset 1, à partir de verset 1. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 administrateurs qui devaient être répartis dans tout le royaume. Il mit à leur tête trois responsables, parmi lesquels figurait Daniel, afin que les administrateurs leur rendent des comptes et que le roi ne subisse aucun dommage. Daniel se montrait supérieur aux autres responsables et aux administrateurs parce qu'il y avait en lui un esprit extraordinaire. Le roi pensait à lui confier la responsabilité de tout le royaume. C'est là que ça ne marche plus, c'est de l'autre côté. Voilà. Non ? Timéo, sinon tu me le fais. Voilà. Les responsables et les administrateurs cherchèrent alors une occasion d'accuser Daniel en rapport avec les affaires du royaume. Cependant, ils ne purent trouver aucune occasion de le faire, aucune faute de sa part, parce qu'il était fidèle et qu'on ne trouvait chez lui ni négligence ni faute. Ces hommes dirent « Nous ne trouverons aucun motif d'accusation contre ce Daniel, à moins d'en trouver un dans la loi de son Dieu ». Les responsables et les administrateurs cherchèrent alors une occasion d'accuser Daniel en rapport avec les affaires du royaume. Un petit peu en arrière. C'est ça. Non, c'est là, pardon. Voilà. Non. Alors, vas-y Timéo, tu reviens en arrière. Voilà, c'est là, c'est bon. À moins d'en trouver sur la loi de Dieu. Ok, allez. Ses responsables et ses administrateurs se précipitèrent vers le roi et lui dirent « Roi Darius, puisses-tu vivre à toujours ? Tous les responsables du royaume, les intendants, les administrateurs, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis que le roi proclame un édit comportant une interdiction sévère. Quelle drôle de loi quand même, hein ? Toute personne qui, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à un autre dieu ou homme que toi, roi, sera jeté dans la fosse lion. Maintenant, roi confirme l'interdiction et écrit le décret afin qu'il ne puisse pas être modifié comme la loi des Mèdes et des Perses qui est irrévocable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret d'interdiction. Et lorsque Daniel fut au courant de la rédaction de ce décret, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre à l'étage étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et trois fois par jour, il se mettait à genoux, priait et exprimait sa reconnaissance à son Dieu, tout comme il le faisait avant. Alors ces hommes se précipitèrent et trouvèrent Daniel en train de prier et de supplier son Dieu. On va s'arrêter là pour l'instant. Ce passage nous interpelle sur la place de la prière dans la vie du croyant. Il ne fait aucun doute que la prière pour Daniel n'est pas un élément accessoire dans sa vie. Nous apprenons qu'il priait trois fois par jour, et ceci tous les jours. Daniel était un homme de prière. Et ses formes de prière sont variées. Il invoque l'Éternel, c'est-à-dire qu'il cherche la présence de Dieu. Il pratique l'action de grâce et la reconnaissance et la louange. Il s'humilie aussi et pratique la repentance. Il implore, c'est-à-dire qu'il supplie avec insistance et qu'il persévère dans sa demande. Au chapitre 9 du livre de Daniel, nous voyons Daniel lire le livre du prophète Jérémie. Et ce qu'il lit le guide dans sa prière. Bref, on peut dire que la prière chez Daniel n'est pas un accessoire, mais qu'elle est l'élément indispensable qui rime et qui ancre sa vie. Daniel a mis sa vie en danger pour la prière à son Dieu. Autrement dit, Daniel donnait à la prière un prix égal à sa vie. La loi de Darius n'ordonnait pas de se prosterner devant une statue et de l'adorer, ce qui avait été demandé aux amis de Daniel sous peine d'être jeté dans une fournaise ardente, mais juste de s'abstenir de prier son Dieu pendant 30 jours, et si vous vouliez prier, d'adresser votre prière à Darius. Et lorsque Daniel a entendu le décret de cette loi, Daniel n'a pas changé ses habitudes. Il va dans sa chambre, où les fenêtres sont dirigées et ouvertes vers Jérusalem. Je ne sais pas de quelle matière étaient les fenêtres à l'époque. Je me suis posé la question, j'aurais dû demander la réponse à Christian Saourine. Je ne pense pas qu'il y avait des fenêtres avec des battants comme ça, hein. Je ne sais pas du tout. Voilà. Mais en tout cas, il se dirige dans la prière vers Jérusalem et il se met à genoux. Alors que pensez de cette attitude? Qu'auriez-vous fait à sa place? Que lui auriez-vous conseillé? Peut-être lui auriez-vous conseillé de prier secrètement, tard dans la nuit, quand personne ne peut le voir, pas vu, pas pris. Peut-être lui auriez-vous dit de ralentir son rythme de prière. Bah, tu n'as pas besoin de prier trois fois par jour, tu n'as qu'à faire une seule prière, c'est tout. Et puis tu le fais de manière un petit peu secrète. Dans ton lit, par exemple, ne serait-ce pas suffisant? Et puis si tu ne pries pas pendant 30 jours, qu'est-ce que ça change? Au bout du 31e jour, tu pourras prier, n'est-ce pas? Dieu ne te le reprochera pas, Daniel. Daniel a dû avoir les mêmes réflexions intérieures, mais il a choisi de faire selon ses habitudes, c'est-à-dire se tenir devant son Dieu trois fois par jour, au même moment que les trois sacrifices quotidiens se faisaient au temple avant sa destruction. Alors moi, je suis interpellé, et j'espère que vous l'êtes tout comme moi. Daniel m'apprend que la prière est importante. Et voici quelques raisons pour lesquelles la prière est importante. Et le mot est faible, je reformule. Voici quelques raisons pourquoi la prière est vitale pour la vie des membres du peuple de Dieu. Je vais ne faire qu'effleurer ces raisons. Je vous exhorte à les méditer pour les faire vôtres. Première raison, la vie chrétienne n'est pas une vie double. Pour le croyant, il n'y a pas la vie séculière d'un côté et la vie spirituelle d'un autre côté. Il n'y a pas 6 jours dans la semaine où je m'occupe de mes propres affaires et puis un jour le dimanche où je m'occupe des affaires spirituelles, des affaires de Dieu. J'ai parlé récemment avec une personne qui souffrait de cette dichotomie dans sa profession. Oh là là, vivement que je sois à la retraite, pour que je puisse m'occuper des affaires de Dieu. Hein ? Vivement dimanche, pour que je puisse aller au culte. C'est vrai, c'est important. Voilà. Mais on peut vivre son métier d'un point de vue alimentaire, mais aussi d'un point de vue spirituel, n'est-ce pas ? Et vivre son métier que de manière alimentaire, c'est certainement gâcher l'appel que le Seigneur a pour votre vie. N'importe quelle profession peut devenir un ministère pour Dieu si on l'habite par nos prières. J'ai connu un vigneron auprès de qui je faisais les vendanges quand j'avais 17 ans. Il m'a laissé un impact incroyable au début de ma vie chrétienne. Quand il ramassait les raisins, il chantait des cantiques. J'avais le dos cassé, les aoûtas me suçaient le sang. J'avais chaud, tant et plus. Lui aussi souffrait de la même chose que moi, mais il chantait. Son travail, il le pratiquait dans la joie et la louange, et cela réagissait sur tous les vendangeurs. La vie du croyant est une vie offerte à Dieu. Si nous avons été rachetés par le Christ, nous appartenons à Christ. À qui appartenez-vous ? À Jésus-Christ. Il est notre Sauveur, notre Seigneur, et nous ne voulons pas d'autre Seigneur que lui. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. On l'a chanté tout à l'heure. Que chaque respiration soit pour lui. Le Seigneur nous a donné par grâce la vie éternelle, n'est-ce pas ? Et nous sommes chrétiens, c'est-à-dire porteurs de Christ, à plein temps ! À plein temps ! La vie que nous menons à chaque instant est vécue devant Dieu, elle est à être vécue comme un culte pour Dieu. C'est notre appel, c'est notre vocation. Comme Jésus répond au tentateur qui lui demande de se mettre à genoux devant lui et de l'adorer, nous répondons, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, à lui seul tu rendras un culte. Paul l'exprime à sa manière. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Si je vous disais que la vie chrétienne, c'est un culte, pas seulement le culte du dimanche matin, que nos vies chrétiennes sont un culte pour Dieu. La prière est comme une colonne vertébrale pour la vie chrétienne qui permet de réconcilier séculier et spirituel. Daniel a unifié sa vie en la tressant dans la prière. J'ai trouvé très beau cette phrase. C'est moi qui l'ai faite. Je l'aime beaucoup. Daniel a unifié sa vie en la tressant dans la prière. Matin, midi et soir, serviteur de Dieu. Matin, midi et soir, serviteur de Dieu auprès des hommes. La seconde raison pour laquelle la prière est importante, c'est que par elle, nous trouvons un refuge en Dieu. Par elle, nous construisons notre assurance et nous résistons à l'esprit du monde. Quels étaient les sentiments de Daniel à Babylone, à la cour de ces puissants qui, du jour au lendemain, peuvent vous envoyer à la fournaise ou au lion ? Sa position d'homme important à la cour ne le protégeait en rien. Aujourd'hui au sommet, demain au lion. Comment pouvait-il rester calme ? Face à la violence, à la folie, à l'orgueil des hommes, comment Daniel pouvait-il être dans la paix alors que lui-même et son peuple étaient en exil ? Les hommes sont désespérants. Chaque fois que j'éteins ma télévision après FR3 et Antenne 2, et je suis désespéré. Même s'il y a les Jeux Olympiques, même si on récolte des médailles d'or, etc., je suis désespéré. Un roi qui est censé faire le bien de son peuple s'entoure d'hommes insensés qui rédigent des lois complètement folles, inutiles, juste pour glorifier l'homme. Les hommes de notre temps sont tout aussi autant désespérants. Et les informations qui arrivent à nos yeux et à nos oreilles sont souvent désespérantes. Nous sommes envahis, inondés, submergés, terrassés, ou tout au moins atterrés par ces informations. Sans parler d'informations, la culture ambiante de notre société, de notre siècle, exerce véritablement une pression sur nos âmes et nos cœurs, provoquant mal-être, colère, tristesse à l'excès, insécurité, indignation, un petit peu comme l'apôtre Paul se promenant à Athènes devant toutes les idoles. Et la réponse, frères et sœurs, ce n'est pas de se tourner vers les réseaux sociaux pour y déverser vos frustrations et vos indignations et vos coups de gueule. Ça fait du bien peut-être. Daniel n'a pas laissé la colère monter en lui contre les intrigants. Et voyez comme ceux-ci sont vraiment des méchants et des mauvais. Ils attendent que Daniel aille dans sa chambre et c'est marqué, ils se précipitèrent. Daniel n'a pas eu de chance. Ils n'ont pas laissé une chance à Daniel. C'était eux les vrais lions. Et qu'a fait Daniel en entendant le décret du roi? Il est allé se réfugier dans la prière. La réponse adéquate devant toute situation qui exerce en nous une pression extérieure est de venir devant notre Dieu et passer du temps en sa présence. La prière est un acte de résistance à l'esprit du monde. Asaph a écrit un psaume qui me sert continuellement dans ma vie chrétienne. Au psaume 73, il réfléchit au succès des méchants qui semblent prospérer et cela, ça le met en rogne. Pourquoi Dieu ne fait-il rien? Pourquoi ne fait-il pas justice? Est-ce qu'il se cache? Est-ce qu'il se désintéresse des sorts des humains? L'argument des méchants dans le psaume est dit « Dieu ne sait pas tout, il ne connaît rien, il n'intervient pas. Ce n'est pour rien que le juste cherche à bien faire. » Et Asaph lui-même est tenté de penser et de parler comme eux. Alors il termine son psaume en disant « J'ai cherché à comprendre. » Je trouvais cela trop injuste jusqu'au jour où je suis entré dans la maison de Dieu, où j'ai réfléchi au sort qui les attend. Il termine son psaume en disant « Mais pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. J'ai placé mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes ses œuvres. » Nous avons besoin, frères et sœurs, de nous approcher encore de notre Dieu et de trouver en lui notre refuge. La troisième raison pour laquelle la prière est importante, selon moi, c'est que par elle, je m'enracine dans la vision biblique de la réalité et de l'histoire. Ça, je vais faire court parce que c'est ce que nous avons fait ce matin, n'est-ce pas? Lorsque nous avons loué le Seigneur, nous avons vu quoi? Qu'est-ce que nous avons dit? Seigneur, tu es malheureux, tu es pauvre, tu n'as pas de succès. Mais non, on n'a pas dit ça. On a glorifié la croix comme la victoire de Dieu sur le monde. On a glorifié le Seigneur comme le Seigneur sur toutes les nations. C'est ce que nous avons fait, n'est-ce pas, ce matin? Ou alors que notre louange était nulle? C'est ce que, lorsque je m'approche dans la prière, je vois le dessein de Dieu bienveillant sur toute la création. Même si la création a chuté, Dieu a un plan de rédemption qu'il va mener à bien jusqu'à sa restauration finale. La croix est la victoire de Dieu, nous l'avons chanté. Un étendard planté qui revendique pour lui ce qui a été touché par la chute. Jésus est venu inaugurer le royaume de Dieu, nous l'avons vu ce trimestre. Et en son temps, il réunira toutes choses, tout ce qui est dans le ciel et tout ce qui est sous la terre, sous sa seule autorité. Amen. Ça, je fais Jean, mon frère Jean. Amen, alléluia. Dans ses prières, Daniel a vu une pierre qui venait briser la statue de tous les royaumes de la terre. Dieu jouant au bowling et renversant la statue de tous les royaumes de la terre. L'apôtre Jean a vu l'agneau de Dieu immolé. Il a vu en même temps le lion de Juda. On l'a chanté ce matin. Alléluia. Quatrième raison pour laquelle la prière est importante, c'est quel est le moyen que Dieu nous a donné pour communiquer avec lui et être en relation. Elle est davantage un privilège qu'un devoir religieux à accomplir. Daniel se tourne vers Jérusalem pour prier. Il n'est pas dans une posture superstitieuse, mais il entre dans la promesse de Dieu. Salomon avait prié lors de la dédicace du temple et sa demande avait été entendue par le Seigneur qui manifeste sa présence par un feu qui descend du ciel. Et voici un extrait de la prière de Salomon. « Admettons qu'ils pèchent contre toi, les hommes, le peuple d'Israël, puisqu'il n'y a aucun homme qui ne commette pas de péché. » Il dit juste. Et que tu sois irrité contre eux au point de les livrer à l'ennemi qui les déportera dans un autre pays, lointain ou proche. C'est ce qui s'est passé. Israël, Juda sont déportés. S'ils se mettent alors à réfléchir dans le pays où ils seront exilés, s'ils reviennent à toi et t'adressent des supplications dans le pays de leur déportation en disant « Nous avons péché, nous avons commis l'injustice, nous avons fait le mal », oui, s'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme dans le pays de leur déportation, celui où on les aura exilés, s'ils t'adressent des prières, les regards tournés vers leur pays, celui que tu as donné à leurs ancêtres, vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai construite en l'honneur de ton nom, écoute du haut du ciel, de l'endroit où tu résides, leurs prières et leurs supplications, et fais leur droit. Pardonne à notre peuple ses péchés contre toi. Oui, Dieu nous a donné la prière, le moyen de nous tourner vers lui et de revenir à lui en relation. Faut-il que nous nous tournions vers Jérusalem pour prier ? Je serais en peine de vous dire où est la direction de Jérusalem ici, d'ici. Peut-être par là-bas, je ne sais pas. Je sais pas. Non, Jésus-Christ est notre fenêtre ouverte. C'est par lui que nous sommes entendus du Père. Notre prière passe par la médiation du Fils désormais. Nous prions en son nom, par lui, et nous nous approchons de Dieu trône de la grâce pour trouver un secours au temps opportun. Par Jésus-Christ, notre fenêtre ouverte. En conclusion, voilà quelques raisons, et il y en a d'autres pour lesquelles la prière est indispensable, vitale pour la vie des croyants. Les chrétiens aujourd'hui sont plus intéressés par les côtés techniques de la prière. Que faut-il dire ? Que doit-on demander ? Comment faut-il se tenir ? Combien de temps doit-on prier ? À quel moment doit-on prier ? Comment être efficace la prière ? Faut-il louer ? Faut-il supplier ? Faut-il dire une bonne formule ? Faut-il confesser à tout prix la victoire du Christ ? J'ai préféré mettre l'accent sur quelques aspects des répercussions de la prière que sur des aspects techniques. C'est-à-dire la prière qui unifie notre vie, la prière qui construit notre assurance, la prière qui édifie notre vision biblique de la réalité et de l'histoire et qui participe à la venue du règne de Dieu, la prière qui est relation avec Dieu le Père par le Fils. Prier est notre privilège, une fenêtre ouverte vers le trône de Dieu. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et finalement, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, peut-être il y en a quelques-uns parmi nous qui ne connaissent pas la fin de l'histoire de Daniel. Daniel, effectivement, à cause de sa vie de prière, est jeté dans la fosse aux lions parce qu'il a prié son Dieu. Mais les lions ont eu la gueule fermée. Le roi Darius, qui aimait bien Daniel, qui fut piégé par cette loi ridicule, se retourna contre ses mauvais conseillers, les jette dans la fosse où ils sont déchiquetés à l'instant même par les lions. Et finalement, lui-même, le roi Darius, roi suprême, se tourne vers Dieu et donne gloire à Dieu. Écoutons-le. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et un profond respect pour le Dieu de Daniel. En effet, il est le Dieu vivant, il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui accomplit des signes et des miracles dans le ciel et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la griffe des lions. Amen. Amen. Waouh. Prions. C'est notre privilège. Seigneur, ce ne sont que de quelques mots, mais Seigneur Jésus, suscite en nous le désir de la prière. Suscite en nous, Seigneur, réveille en nous, Seigneur, ce désir de la prière. Ce privilège énorme que tu nous as donné pour communiquer avec toi par Jésus-Christ. Seigneur, tu connais toutes nos situations. Seigneur, mais en toi nous trouvons notre refuge. Pardonne-nous lorsque nous divisons nos vies, Seigneur, en deux parties. Côté séculier, côté spirituel. Rappelle-nous que tu es présent avec nous tous les jours, Seigneur. Comme tu nous l'as rappelé ce matin. Oui, Seigneur, suscite en nous la prière, fais de nous une communauté qui prie. Seigneur, tu aimes à te révéler lorsque deux ou trois s'accordent pour demander une même chose en ton nom. Fais de nous une communauté qui prie. Et Seigneur, comme tu nous l'as exhorté ce matin, nous voulons te prier pour la France, pour notre pays, la situation dans laquelle elle vit. Seigneur, nous te demandons de visiter notre France. Seigneur, son gouvernement, ces lois qui parfois certaines nous paraissent pas justes. Seigneur, viens et suscite un réveil dans le peuple de Dieu, commençant par nous, pour que nous soyons des témoins de ta vie et de ta victoire à la croix. C'est toi qui as le dernier mot. Seigneur, dans tout ce que nous faisons, Seigneur, à toi la gloire. Amen. Amen. Merci. Amen.